Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici le journal de Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Un très bel été avec Europe 1, il est 9h.
Par 15 jours, parce que je pense qu'avec le confinement, voilà, on s'est dit il nous faut le grand air et vraiment 15 jours complets pour bien en profiter.
Il était temps, première grande vacances après le confinement. Pour de nombreux Français, ça sent la délivrance. Nous serons sur une aire d'autoroute dans un instant avec Marion Gauthier.
L'affaire Adama Traoré de nouveau relancée. La bataille d'experts reprend. La justice a confié le dossier à des médecins belges.
Dans ce journal également, nous retournerons à Dijon. Comment vivent les habitants du quartier des Grésilles après les violences du mois dernier.
Calmera jamais la colère des gens. Ça peut recommencer et ça va recommencer. Bien sûr, l'État nous a abandonnés, ça fait longtemps.
Et puis à la fin de ce journal, la fin de l'état d'urgence sanitaire et le retour de certaines activités en plein air. À Paris, les bateaux-mouches rouvrent aujourd'hui.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les valises sont bouclées, vous êtes même peut-être déjà sur la route des vacances. C'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs. On s'attend donc, Lénaïque, à des bouchons sur les grands axes.
Oui, mais pas de quoi entamer le moral des vacanciers. Marion Gauthier, on vous retrouve sur l'aire d'autoroute de Limours-Janvry. Ses premières grandes vacances après le confinement, tout le monde les attendait avec impatience.
Oui, les pauses sont pour la plupart assez courtes ici. Le temps pour les conducteurs de boire un café, d'être éblouis quelques minutes pendant que les dormeurs restent dans la voiture. Et Magali tente de faire une place à tous les bagages dans les recoins de son coffre. Depuis février et sa réservation pour Perpignan, elle attend.
On part 15 jours parce que je pense qu'avec le confinement, voilà, on s'est dit il nous faut le grand air. Et vraiment 15 jours complets pour bien en profiter et chercher le soleil surtout.
Et d'autres voyageurs perturbés par le coronavirus s'y sont pris un peu plus tard, mais ont vu les choses en grand. De Bruxelles, Stéphane rejoint les Landes et toute sa famille.
On est d'avis d'en profiter. Déjà à Pâques, nos vacances sont tombées à l'eau, donc on est quand même content de pouvoir partir maintenant en été. Bien que on s'est posé longuement la question si on allait pouvoir partir.
Et idem pour Sophie, Stéphane et leurs deux enfants encore en pyjama. Décision prise hier soir à Valenciennes.
Et on va au Cap d'Agde.
Ils sont contents.
Ça, c'était pas prévu. Et vu le temps que nous avons à la maison, on a décidé de partir.
Le Nord a fait qu'au bout d'un moment, on a changé.
Mais le père de famille qui prévient, avec les masques, la distance, ce ne seront pas des vacances comme les autres.
Merci Marion Gauthier, en direct de la 10 à l'aire d'autoroute de Limours-Janvry pour Europe 1.
Alors que l'état d'urgence sanitaire vient d'être levé, cette question, Lénaïque, va-t-il falloir reconfiner certaines zones en France?
Oui, on pense ce matin à la Mayenne où le nombre de personnes infectées a été multiplié par 4 en 2 semaines. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France, tire ce matin la sonnette d'alarme.
Clairement, les conditions sont réunies pour que on ait affaire à un mini Mulhouse. Je pense que la précaution élémentaire sera été de confiner la Mayenne temporairement, le temps qu'on teste les gens et qu'on puisse identifier les cas contacts et les isoler correctement. Il y a 3 laboratoires d'analyse en Mayenne. C'est suffisant d'habitude pour cette population de 300 000 habitants, mais c'est notoirement insuffisant quand on a un redémarrage de l'épidémie. 10 jours de délai pour tester quelqu'un de symptomatique, des chiffres qui passent de 230 à 300 en moins de 5 jours et 4 foyers différents répartis dans le département. Moi, je pense que le gouvernement devrait réagir plus fermement qu'il ne le fait actuellement. Sans compter que les gens vont certainement partir en week-end. C'est un week-end prolongé et je suis surpris que le gouvernement ne réagisse pas davantage.
Jean-Paul Hamon au micro Europe 1 d'Hélène Terzian.
À l'étranger, les chiffres alarmants également autour de ce Covid qui continue de faire des ravages. Plus de 133 000 morts aux États-Unis, plus de 70 000 au Brésil désormais et près de 45 000 au Royaume-Uni.
Accord validé au Ségur de la Santé, la majorité des syndicats prêts à signer. À E3, 3 syndicats pèsent plus de 50% des voix dans la fonction publique hospitalière. On parle de la CFDT, FO et l'UNSA Santé. Cet accord prévoit 180 euros d'augmentation pour les agents hospitaliers hors médecins et 15 000 embauches. 6 autres syndicats, comme la CGT et Sud Santé, estiment que ce n'est pas suffisant et appellent à manifester le 14 juillet.
L'affaire Adama Traoré relancée. Il s'agit de ce jeune homme mort en 2016, 2 heures après son interpellation par les gendarmes et érigé en symbole des violences policières. C'est une bataille, Lénaïque, qui dure depuis des années.
Et nouvel épisode, donc, avec une énième expertise médicale. Maître Rodolphe Bosselu, avocat d'un des gendarmes qui a participé à l'interpellation d'Adama Traoré, se félicite de cette nouvelle expertise confirmée. confiée donc à des médecins belges.
Cette expertise a été voulue à la suite de la nouvelle audition du témoin chez qui s'était réfugié Adama Traoré lorsqu'il a été interpellé. Ce témoin avait fait état d'un état d'épuisement d'Adama Traoré, ce qu'il a confirmé en rajoutant que l'épuisement était total puisqu'Adama Traoré lui aurait confié « j'ouvre les guillemets, je vais mourir ». C'est donc dans ce contexte que les juges ont décidé une nouvelle mesure d'expertise.
Ça vous paraît une bonne décision ?
Mes clients trouvent le temps long, mais la mission qui a été confiée aux experts belges est extrêmement complète et elle demande notamment d'investiguer de façon exhaustive l'hypothèse de l'hyperthermie maligne, c'est-à-dire, pour parler trivialement, du coup de chaleur qui serait à l'origine exclusive du décès d'Adama Traoré.
L'avocat Rodolphe Bosselu avec Alain Inco pour Europe 1.
Dans un instant, retour à Dijon, nous irons voir comment vivent les habitants du quartier des Grésilles après les violences du mois dernier.
Il est 9h06 sur Europe 1.
Sébastien Guyot sur Europe 1. La matinale d'Europe 1, 7h-10h.
Suite de l'actualité avec Lénaïque Monnier et Sébastien Guyot.
Lénaïque, près d'un mois après les violences dans le quartier des Grésilles à Dijon, Jean Castex et Gérald Darmanin se sont rendus sur place hier.
Avec un message de fermeté du Premier ministre qui a salué le travail de la police et qui a annoncé qu'une vingtaine de fonctionnaires supplémentaires seraient affectés à Dijon à la rentrée. Une neuvième personne a été mise en examen et placée en détention provisoire dans le cadre de cette enquête sur les violences. Jean-Gabriel Bourgeois est retourné voir les habitants de ce quartier. Reportage.
Il n'y a rien qui a changé parce que c'est toujours calme de toute façon à la base. C'est pas non plus un quartier violent, mais la présence policière, elle est là.
Des policiers présents, mais discrets, admet Rachid. Pour ce jeune homme né dans le quartier, les événements du mois dernier ont permis aux forces de l'ordre de reprendre du terrain.
Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des gens qui travaillent, une présence policière et il en faut. Sinon, c'est l'anarchie. Hein.
L'anarchie, c'était le mois dernier, se souvient Salin, persuadé que les Grésilles peuvent s'enflammer à nouveau.
Calmera jamais la colère des gens. Ça peut recommencer et ça va recommencer. Bien sûr, l'État nous a abandonnés, ça fait longtemps.
Tous saluent la venue à Dijon du Premier ministre Jean Castex. Édouard Philippe n'avait pas fait le déplacement, mais ce n'est pas pour autant qu'Amid, un grand frère de la cité, donne un blanc-seing au nouveau chef du gouvernement.
On va le laisser prendre son poste, on va le laisser travailler comme tout le monde. Et par-dessus, il y aura toujours le bulletin de vote qui dira si on l'assiste ou on l'assiste pas, ce monsieur. Si on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui. Mais attendons de voir.
Ce qu'on regrette, ajoute-t-il, c'est la discrimination qui s'est institutionnalisée. Dijon, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
On a appris hier soir le décès du chauffeur de bus victime d'une agression le week-end dernier à Bayonne. Philippe Monguillot, 59 ans, roué de coups par des passagers à qui il demandait d'acheter un ticket et de porter un masque. Une marche blanche avait rassemblé 6000 personnes dans la semaine.
Lénaïque, à présent, une idée de sortie pour les Parisiens qui ne sont pas encore partis en vacances.
Oui, parce que c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les Parisiens et les touristes ont de nouveau droit à certaines activités en plein air. Les bateaux mouches, par exemple, qui naviguent pour la première fois depuis le confinement. Reportage Sarah Calamand.
Notre-Dame de Paris, l'hôtel de ville, on voit plein de bâtiments que j'avais jamais vus en vrai.
Une première croisière un peu particulière pour Pauline et ses grands-parents.
Pour nous, venant de Belgique, on est étonnés de voir comme il y a peu de monde, alors qu'il y a 3 ans, c'était dingue. Des files pendant 2 heures, donc on a l'aspect positif de la crise sanitaire. Voilà.
Moitié moins de billets à vendre, seulement 60 passagers, tous sur le pont supérieur. À bord, personne ne porte de masque, sauf le personnel. Aucun siège condamné, on en oublierait presque le coronavirus. Le directeur commercial de la compagnie, Claude Micalef, a chargé les matelots de veiller quand même au respect des gestes barrières.
Une balade sur un bateau mouche, c'est un moment de plaisir, de découverte. On n'impose pas le masque, mais en même temps, on rassure, sans que ce soit anxiogène.
Après 4 mois d'arrêt, Bruno, le capitaine du bateau, retrouve enfin sa cabine.
Jamais je pensais à vivre un jour cette situation. Ça fait 31 ans que moi je suis au sein de la compagnie. Bon, ça fait toujours une petite émotion particulière, mais ça va revenir tout doucement. Après, le charme de la scène fera son œuvre.
Pour l'instant, sur le pont, on se parle surtout en français. La compagnie espère le retour des touristes étrangers d'ici l'automne.
Sarah Calamand. Et autre bonne nouvelle pour les amateurs de sport, cette fois-ci, les stades rouvrent au public aujourd'hui.
Oui, alors on pourrait être 5000 dans l'enceinte, évidemment, c'est toujours mieux que rien. Les matchs amicaux, du coup, vont reprendre avec Chambly et Caen qui sont les premiers à reprendre le chemin des terrains devant un public aujourd'hui, face à Boulogne-sur-Mer et face au Paris FC. Et puis demain, c'est le Paris Saint-Germain qui sera sur le terrain au stade Océane. Ce sera au Havre à 19h.
Et on sera sur place, bien sûr, avec les envoyés spéciaux d'Europe 1. Merci Lénaïque Pony, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.